de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la composition qui est une étape importante pour les compositeurs car ils conçoivent une œuvre musicale de manière qu'elle corresponde à leur expression sonore de la pensée. En tant qu'organiste, vous jouez des œuvres issues de la pensée d'un compositeur et à cet exemple-là, il y a notre grand maître, Johann Sebastian Bach, et ce processus de composition signifie effectivement qu'il répond à certaines règles de schéma de pensée. Vous-même, vous êtes professeur, donc vous avez aussi vous-même votre schéma de pensée lorsqu'on transmet un enseignement, et aussi la composition nous enseigne quelque chose. Qu'en pensez-vous ?
Alors, ça pose le problème, qui est une excellente question, le problème de l'œuvre. Nous avons, nous, en tant que professeurs d'université en physique, voilà mon métier, les publications. C'est exactement la même chose. Quand on publie quelque chose, pour autant, ce n'est pas mort. Au contraire, c'est fait pour vivre. Alors là, je voudrais prendre une comparaison. La fresque, en fait, Bach écrivait des fresques. Quand on prend ses grands préludes et fugues, ce sont des fresques en musique gigantesques. Je prends une fresque extraordinaire, unique dans l'histoire, qui est le Jugement dernier dans la Sixtine par Michelangelo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à une œuvre comme ça ? Ce serait vraiment indécent de vouloir rajouter quoi que ce soit. Sauf qu'elle évoque en nous des résonances. Alors j'insiste beaucoup sur ce thème résonance, c'est-à-dire que le schéma mental qui est derrière, c'est que quand nous avons la perception physique de l'œuvre, eh bien ça déclenche dans notre cortex, alors ça c'est pour le coup c'est de la physique, hein, des structures, c'est mon métier, eh bien ça déclenche des résonances holographiques dans le cerveau, qui fait que nous ne voyons pas que l'œuvre. Nous voyons la surface des choses. Oui, la fresque, c'est une surface, excusez-moi. Et peut-être, si j'osais, je dirais nous voyons ce qui est derrière la fresque. Et ça nous amène à une réflexion au sens du miroir. C'est-à-dire que nous allons nous réfléchir là-dedans. Alors maintenant, imaginons un grand prélude et fugue de Bach. Alors on va le regarder, d'abord on regarde la partition, parce que effectivement, comme la fresque de Michel-Ange, ça se regarde. Quand j'étais petit, maman se moquait beaucoup de moi, parce que j'adorais contempler les partitions. À 8 ans, je contemplais les partitions, et parce que je sentais qu'il y avait quelque chose derrière, si vous voulez. On va regarder la musique, et ensuite on va, alors surtout pas se l'approprier, si j'osais, je dirais qu'on va se fondre dedans. C'est-à-dire qu'on va entrer véritablement dans l'œuvre. Et on va regarder, alors pour le coup on est en plein dans le titre de l'émission, ce qu'il y a entre les notes. J'allais dire de pierres et de notes, quelque part. Et donc on va chercher en effet, là aussi j'oserais dire, le mystère qu'il y a derrière. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'on va rien rajouter à l'œuvre, mais sans rien rajouter, on va retrouver les résonances qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Et qui font, mais ce sera peut-être, puisque vous allez m'inviter à une autre émission, l'objet d'une autre émission, qui sont l'interprétation de chacun, que ce soit l'interprète ou l'auditeur, ce sont deux choses qui vont résonner de manière différente d'une personne à l'autre, et la même œuvre, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'art, va résonner pourtant à partir du même matériau. Matériau est un bien pauvre mot, mais vous comprenez, ce qu'on appelle l'œuvre va résonner de manière différente.
Ce grand prélude et fugue en mi bémol de Johann oui. Sebastian Bach est issu aussi d'une grande structure d'esprit. Oui. Ce processus développe, à votre avis, quelle structure de pensée ?
Alors, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, le mi bémol est un prélude et fugue unique. D'abord, la fugue est totalement trinitaire. Vous avez le thème du Père, le thème du Fils et le thème de l'Esprit qui travaillent ensemble dans l'amour. Parlons du prélude. Alors, le prélude, c'est la majesté. D'ailleurs, vous voyez, puisque vous me demandez ce qu'il y a derrière les œuvres, Pierre Vidal avait trouvé un grand psaume écrit derrière ce prélude et fugue, « Seigneur, tu es plein de majesté ». Donc moi, j'y vois une vision de l'éternité et de la grandeur et du bonheur dans l'être total. Alors, les trois bémols du mi bémol, le thème royal véritablement qui se déroule, les petits oiseaux aussi, qui sont les oiseaux de François d'Assise. Hein. On les entend qui gazouillent à certains moments, comme dans le François d'Assise de Liszt, exactement comme si Bach avait eu l'intuition du piano avec les effets tout à fait miraculeux. Donc, vous voyez que dans cette structure très rigoureuse, parce que Bach est quand même très rigoureux, il y a une liberté, il y a une fresque, j'oserais dire une fraîcheur extraordinaire que quand on le vit de l'intérieur.
Sébastien Bach devait composer des cantates, beaucoup de messes, oui. Des oratorios, des chorales issues de thèmes déjà établis. Il y a dans la composition des éléments incontournables pour chaque compositeur. Ce n'est pas une illusion en soi, mais un schéma de leur propre fonctionnement de pensée pour faire des compositions. La composition est-elle peut-être issu de quelque chose d'un inconscient, de quelque chose peut-être d'illusoire, ou peut-être évoque-t-elle la réalité d'un monde spécial d'un compositeur?
Tout dépend ce qu'on appelle illusion. Si illusion, c'est vivre ses rêves, alors oui, c'est de l'illusion. Si illusion, c'est rêver sa vie, alors non, la musique n'est sûrement pas illusion. Donc il y a un malentendu sur ce thème-là. Alors, puisque vous parlez de Johann Sebastian Bach, son monde culturel, c'était le choral luthérien. Comme nous avons le fond grégorien qui nous alimente. D'ailleurs, c'est un fond commun, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, en fait, il priait ses chorales quand il l'écrivait, et il regardait dans son intérieur comment tout cela résonnait en prière et comment cette prière pouvait remonter sous forme de musique. Alors, effectivement, c'est ce qui nous arrive aussi quand nous improvisons pendant les cérémonies sur un choral. Mais lui le faisait de manière intérieure, sans l'instrument, car la vraie composition se fait avec le crayon, le papier, sur la table, simplement sur la résonance intérieure. Donc, effectivement, si illusion veut dire résonance intérieure, oui. La musique est illusion. Si illusion veut dire ce qui n'existe pas, non.
Il y a des formes comme la fugue qui a elle-même sa propre structure. Est-ce que la structure est elle-même issue d'un schéma de pensée ou est-elle, pas illusion, mais justement quelque chose qui évoque l'inconscient du compositeur, donc
oui.
La réalité, donc le sacré?
Alors, il y a effectivement des choses issues de l'inconscient parce que tout simplement, ce sont des paradigmes qui fondent la pensée humaine. La pensée humaine se fonde sur un certain nombre de choses qui s'enchaînent, des idées qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, et l'enchevêtrement des thèmes dans une fugue, on peut le dire, est d'origine cérébrale. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Alors, si on appelle ça une illusion, je veux bien. Mais en réalité, non. C'est tout simplement que c'est un processus réfléchi. C'est un processus raisonnable, réfléchi, tout en ayant cette part de création et de fantaisie. D'ailleurs, dans les fugues, il y a les sujets, les contre-sujets, et il y a ce qu'on appelle les divertissements. Alors, divertissement, il ne faut surtout pas voir le French cancan. Hein. Il faut voir, j'allais dire, des variations éclairées du thème, et qui vont chercher des harmonies différentes, des notes étrangères, des choses comme ça, et qui vont éclairer la musique.
Et la fugue BWV 552 évoque ce propos ?
Complètement.
Donc nous allons l'écouter.
Parfait, oui, c'est un exemple tout à fait achevé et presque unique dans l'histoire de la musique.
des siècles, à partir du XXe siècle, la composition devient l'art d'assembler des sons pour obtenir une œuvre musicale, indépendamment de l'idée, d'un schéma formel préétabli. Est-ce que c'est un phénomène encore issu de l'illusion, ou est-ce que c'est une composition illusoire où l'illusion donne des émotions, ou véritablement est-ce que c'est sublimer quelque chose ?
Alors, il y a deux façons d'assembler, si vous voulez. Il y a la façon d'assembler de la tour de Babel. Alors, la façon d'assembler de la tour de Babel, c'est de mettre une pierre l'une sur l'autre pour croire qu'on va aller jusqu'au ciel comme ça, vous voyez ? Et puis ça aboutit finalement à l'éclatement du chacun pour soi. On connaît cette histoire. Et puis, il y a la façon d'assembler des architectes, des cathédrales, qui travaillent ensemble et qui cherchent la complémentarité des pierres, qui cherchent l'harmonie de l'ensemble, et qui cherchent surtout à montrer que, certes, la clé de voûte qui est là-haut est très importante. On peut appeler ça de l'illusion, si vous voulez. Pour moi, pas du tout. Le réalisme et l'harmonie qui fait que nous ne sommes pas grand-chose les uns sans les autres.
C'est pour ça que Johann Sebastian Bach est allé écouter des grands pontes comme
des grands
maîtres.
Mais complètement, est allé voir Buxtehude, y recopier Frescobaldi, les Français, etc. Et il s'est mis à leur école. Vous avez tout à fait raison, avec beaucoup d'humilité. Lui, qui est le plus grand musicien de tous les temps, il s'est mis à leur école, il les a écoutés et il s'est rendu compte qu'il y avait énormément à apprendre, parce qu'en réalité, la véritable règle de la musique, c'est la règle de la vie. Dans les grandes fugues de Bach, je pense à l'art de la fugue, je pense effectivement à la fugue en mi bémol, il y a le récit de la création, c'est-à-dire les 7 jours où j'essaie de montrer comment tout ça a été voulu pour être unifié pour le bien.
Donc la vie qui est quelque part issue de quelque chose qui fait grandir et aussi d'un sentiment sacré.
Alors définir ce que c'est que la vie, ça va être très difficile quand même. Mais je vois quand même quelques éléments qui nous rassemblent. D'abord, la capacité à être ensemble. Ça, c'est une première chose de la vie. Ensuite, la capacité à transmettre. C'est extrêmement important. Et ensuite, enfin, si j'osais, je dirais aussi la capacité à partager.
La composition est un art unique et qui évoque l'homme.
Oui, l'humanité, tout à fait, dans ce qu'elle a de plus profond. Mais pas seulement l'humanité, si j'osais là aussi, je dirais la création tout entière. D'ailleurs, vous savez, il y a des études sur la musique de Vivaldi qui, paraît-il, quand on la diffuse dans les serres, aide les plantes à grandir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas impossible, parce qu'elle répond à des harmonies qui sont probablement en phase avec le système vivant.
Alors vous aussi, si vous me cherchez, il paraît qu'il y a des vignerons qui font des musiques, qui mettent des musiques dans leurs vignes.
Mais c'est une très bonne idée. Mais c'est une très bonne idée. Ça doit aider les vignes. Ça aide peut-être aussi les vignerons.
Ou les vaches,
qui
pour font... faire
Mais
du lait.
Exactement. À que les animaux soient sensibles à la musique, ça, c'est absolument indéniable.
Donc, il y a quelque chose qui a une part
qui est universelle.
Qui est universelle dans la composition.
Complètement. Parce qu'elle vient de la vie.
Donc peut-être inexpliquée.
Mais non, mais bien sûr, mais moi qui suis physicien, la physique explique des choses, mais la physique n'explique pas tout, et je dirais heureusement, et je m'en réjouis.
Merci Yves, à bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine, à bientôt.
C'était de Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lotte.